Vous avez droit à votre propre opinion, mais pas à vos propres faits. Parole de Paul Romer, prix Nobel d'économie 2018. Et c'est aussi la devise du miroir des sciences. Une émission de François Legrand et Sébastien Berger.
Bonjour Sébastien.
Bonjour François.
Bon alors, j'ai pris un peu de liberté avec notre générique
oui,
habituel.
Ça, ouais.
Ouais, ça vous massacre un peu les oreilles à 10h04. Mais bon, finalement, pour les auditeurs de RKS, on est tout à fait dans l'ambiance du flux musical.
Oui, ils sont prêts à tout.
Donc c'est pas si mal. Alors, ils animent des MOOC, se mettent en scène, inventent des expositions, publient des essais, voire des romans. Ce sont les acteurs et les actrices de la connaissance qui veulent toucher le public, faire comprendre, dialoguer et alerter. Alors, en parlant d'acteurs, Sébastien, qui avez-vous rencontré cette semaine ?
Alors, j'ai rencontré il y a quelques jours Robert Baptiste, qui est un éminent scientifique, qui est à présent à la retraite, et j'ai voulu m'entretenir avec lui pour avoir un peu son point de vue, sa vision sur le long terme de l'évolution de la science, de comment on la transmet, de à quoi ça sert, à qui on en fait profiter. Il se trouve que Robert Baptiste, outre sa carrière très riche de scientifique, a œuvré et œuvre encore beaucoup pour aider les pays en voie de développement à se mettre au niveau scientifique en termes d'enseignement universitaire, et puis aussi pour la diffusion, l'ouverture de la science à la société, aux jeunes. Et j'ai voulu m'entretenir avec lui de tous ces sujets-là.
Alors on l'écoute ?
Allons-y. Robert Baptiste, bonjour. Vous avez travaillé au CEA de Grenoble, vous êtes maintenant retraité. Et au CEA de Grenoble, vous aviez, au moins au cours des dernières années de votre carrière, une position, on va dire, d'expert, de conseil scientifique auprès de grands laboratoires du CEA, comme le LETI, qui travaille à développer les futures applications en technologie de l'information. Est-ce que vous pouvez nous décrire votre parcours dans les grandes lignes, hein, et nous dire comment on arrive à cette position d'expertise assez large ?
Mon parcours est un parcours universitaire à l'origine. J'ai fait mes études en partie en Allemagne et puis ici à Grenoble. Et j'ai commencé par étudier la physique du solide, c'est-à-dire la physique des matériaux. Et au tout début de ma carrière, j'ai travaillé sur la structure électronique des matériaux, c'est-à-dire comment les électrons bougent, se meuvent dans les matériaux et assurent la cohésion de ces matériaux. Alors les tout premiers matériaux sur lesquels j'ai travaillé, ce sont les actinides, c'est-à-dire des matériaux radioactifs, et j'ai étudié leur structure chimique, leur structure électronique, afin de comprendre quelles étaient les liaisons entre les atomes de ces matériaux. J'ai continué ensuite par des matériaux beaucoup plus agréables à étudier, en particulier le silicium ou certains métaux. Ensuite, durant cette époque, j'ai quand même aussi fait pas mal d'instrumentation, et avec un collègue du CEA, Gérard Chauvet, nous avions construit un spectromètre qui permettait de faire de la photoémission, dite photoémission inverse. C'est-à-dire que on envoyait des électrons sur un matériau et on voyait comment ce matériau répondait en émettant de la lumière, lumière qu'on analysait avec un spectromètre. Alors c'était parmi les premières manips en France de photoémission inverse couplée à de la photoémission directe que l'on appelle communément l'XPS ou l'UPS. Cette petite promenade via la spectroscopie m'a ensuite dirigé vers une autre voie plus appliquée qui était la voie de l'émission de champ, c'est-à-dire l'extraction d'électrons issus de pointes, un peu comme un effet paratonnerre. Et à partir de cet effet de champ, on a pu imaginer, c'était une équipe du LETI dirigée par Robert Meyer, d'appliquer cette extraction d'électrons à la fabrication d'écrans plats, dit écran plat à micro-pointe. Donc c'était donc des écrans dans lesquels chaque pixel de l'écran recevait un petit faisceau d'électrons, ce qui induisait de la lumière et permettait à un observateur situé du bon côté de voir des images. Donc c'est une technologie qui a été développée à partir des années 1985-86 et qui a permis de fabriquer des premiers écrans En 89, 87, 88, puis des écrans plus complexes dans les années 90. Un transfert a été fait à une entreprise qui avait été créée à cette occasion, mais le procédé de fabrication était beaucoup trop cher pour pouvoir être commercialisé. Et donc, après une dizaine d'années d'études, cette voie a été abandonnée. Néanmoins, il faut savoir que ces études sur l'émission de champ ont permis de développer un certain nombre d'émetteurs que l'on a retrouvés, par exemple, dans la mission Rosetta pour faire un capteur de pression. Et donc, la sonde Rosetta était chargée d'aller rejoindre une comète et d'étudier en particulier la pression dans la queue de la comète. Et donc, il y a un petit capteur de pression qui a été fabriqué dans lequel des faisceaux d'électrons permettaient de mesurer les poussières ou bien la pression dans la queue de la comète. Ensuite, après cette période, j'ai rejoint le LETI où je me suis intéressé à l'instrumentation miniature. Ensuite, en 2005, on m'a confié la direction d'un projet qui s'appelait Chimtronic. Donc ce programme portait sur les nanosciences et donc j'ai été chargé de mettre en œuvre une collaboration entre ces équipes de physiciens, chimistes, biologistes et technologues de l'ETI pour faire en sorte que les nouvelles technologies basées sur des objets de très très petite taille qu'on appelle les objets nanométriques, tels que les nanotubes de carbone, des nanophiles qui soient ensuite utilisés comme support pour des molécules, des techniques, techniques de simulation des matériaux, techniques de fabrication de matériaux que l'on peut hybrider à des composants électroniques. Donc toute cette activité regroupait environ 120 personnes. Voilà, donc c'était développer l'interdisciplinarité et faire en sorte que, à côté d'une spécialisation dans un domaine, par exemple la physique des nanotubes de carbone, le thésard, le jeune chercheur, soit capable d'interagir avec des gens d'autres disciplines, que ce soit de la chimie, de la biologie, de la technologie, etc. Donc ça, c'était le programme Chimtronic que j'ai dirigé jusque dans les années 2009. Ensuite, à partir de 2009, j'ai été rapproché de la direction du LETI pour faire partie de cette équipe de direction et intervenir sur un certain nombre de programmes et donner mon avis sur ce qui se développait au LETI et au LETI en interaction avec les autres laboratoires de la plateforme. Maintenant, je suis à la retraite depuis 2014 et pendant 2 ou 3 ans après mon départ, j'ai continué de manière très très active. Mais aujourd'hui, cette activité s'est fortement calmée.
Merci Robert Baptiste pour cette promenade un petit peu, hein, on a eu l'impression de se promener, vous avez parlé de détours, pour certains de nos auditeurs c'est une promenade dans une forêt vierge très touffue, où on a quelques noms un peu exotiques voilà, qui sont apparus. On comprend quand même que vous avez eu quand même plusieurs phases, hein, dans votre carrière, et que vous êtes allé de la science très pointue, vers de l'instrumentation, puis vers une certaine prise de hauteur par rapport à un ensemble de domaines scientifiques que vous avez essayé de faire travailler ensemble. On a eu à ce micro, il y a quelques semaines, Alain Schul, qui est directeur délégué à la science du CNRS et qui veille à cette interdisciplinarité au sein du CNRS. Est-ce que ça, c'est une tendance que suivent tous les scientifiques, ou bien c'est une opportunité que vous avez eue, ou une tendance générale de la science, peut-être ?
Il y a un peu de tout, mais je pense que, en ce qui me concerne, ça a été favorisé par le fait que j'ai passé un an comme étudiant en Allemagne, et puis ensuite une grosse partie de la thèse sur les actinides, sur les matériaux radioactifs, a été faite en Allemagne, à Karlsruhe. Et donc j'ai été en contact avec des univers assez différents du nôtre, et en particulier j'ai beaucoup apprécié la première année en Allemagne où l'interaction entre étudiants et professeurs permettait d'aborder toutes sortes de sujets et pas simplement les sujets qui étaient enseignés. Et donc dès cette époque-là, j'ai été attiré par le regard sur d'autres aspects scientifiques que celui auquel je m'intéressais directement. Je pense que mes séjours en Allemagne m'ont permis d'avoir cette ouverture qui fait que je saute facilement, enfin facilement, il faut chaque fois repartir à zéro, c'est jamais très très simple, mais passer d'un sujet à un autre et tirer profit de son expérience pour mettre dans le nouveau sujet des compétences fortes. Donc cette connaissance devient multidisciplinaire dans beaucoup de domaines.
D'accord, c'est une grande tendance de la recherche aujourd'hui.
Et on le voit dans les CV des jeunes qui postulent pour faire une thèse, en numérique notamment, ils veulent comprendre comment travailler avec des 1 et des 0, mais aussi comment travailler avec des milliards de 1 et de 0, c'est-à-dire le big data, et quelles sont toutes les questions sous-jacentes de sécurité. Donc il y a ce besoin de faire de la physique, mais aussi d'utiliser des outils qui sont pas très simples.
Nous sommes ensemble sur RKS, l'esprit grenoblois, pardon. J'ai le masque, ça me fait fourcher ma langue. Et vous êtes sur le miroir des sciences. On est avec Robert Baptiste, scientifique retraité, avec qui je me suis entretenu il y a quelques jours. Ce que j'ai bien aimé là dans cette première partie, qui a été un petit peu technique quand même, c'est qu'on a pu embrasser toute une carrière de scientifique, et on voit à quel point ce type de carrière peut être riche, évoluer, changer de domaine scientifique, et puis en fin de compte prendre de la hauteur par rapport à tous ces domaines qui ont été explorés. Et comme vous l'avez entendu, Robert Baptiste œuvre et a œuvré pour faire se rapprocher différentes disciplines. Hein. On a parlé de physique, de technologie, de biologie. C'est une tendance indéniable aujourd'hui de faire travailler davantage tous ces domaines ensemble. Et il œuvre aussi sur un mode plus humaniste, on va dire, à exporter le savoir dans des pays du monde où ils n'ont pas les moyens de construire, d'avoir à la fois une formation pour les jeunes qui soit à la hauteur des enjeux scientifiques aujourd'hui, et puis des infrastructures qui permettent à la recherche de se développer.
Alors, on comprend que vous avez vu évoluer, se transformer le monde de la recherche, le système de recherche avec et le système de recherche français, par exemple. Quelles sont les grandes tendances, on va dire, que vous avez observées en bien, en mal, de votre position, qu'est-ce que vous en diriez?
Je pense que il y a eu une ouverture très forte du monde académique vers le monde économique. Donc l'innovation est un concept et une chose qui ne fait plus peur aujourd'hui comme c'était le cas dans les années 2000. Au début des années 2000, c'était un gros mot de parler d'innovation. Et donc il fallait probablement beaucoup de courage pour se lancer là-dedans ou se lancer dans les nanosciences, nanotechnologies, etc. Aujourd'hui, il me semble que c'est peut-être trop. Il y a un coup de balancier qui est peut-être un peu trop vers l'innovation et quelquefois de l'innovation de choses qui ne servent pas à grand-chose. Mais malgré tout, il me semble que ça a permis de faire des équipes, de créer des équipes qui ne se dénigrent plus comme c'était le cas avant et ne font plus cette séparation entre sciences de base fondamentale pour l'élite et technologie pour ceux qui suivent.
Alors, je rebondis sur, sur quelque chose que vous avez dit, la science qui ne sert pas à grand-chose. Aujourd'hui, on ressent de plus en plus les contraintes hein, à l'échelle mondiale, les contraintes de différentes natures. Quelles sont les priorités que doit, selon vous, se fixer la recherche en France, en Europe, dans le monde ?
Bah, déjà, de permettre l'accès à la connaissance de plus de gens. Notamment, il y a des pays où la formation scientifique est toujours très déficiente. Ce qui a une incidence sur le niveau économique des pays. Donc la science a besoin, pour moi, de permettre aux pays en voie de développement de se développer et de faire reculer un peu les forces obscures et donc faire en sorte que un certain réalisme permette à la jeunesse de contrôler davantage son destin. Pour moi, la science est aussi le plaisir de comprendre, de connaître, de découvrir. Et c'est pas simplement faire de la science pour créer des applications. Donc je comprends très bien que l'on ait envie de chercher, disons gratuitement. Mais je place pas cela au-dessus de celui qui cherche pour rendre les choses robustes et qui développe des technologies pour que les objets fonctionnent, les instruments fonctionnent longtemps. Pour moi, il n'y a pas de séparation.
Alors, Robert Baptiste, je reviens sur une thématique qui vous tient à cœur, que vous avez un peu évoquée juste avant. Vous êtes engagé depuis plusieurs années dans l'organisation de formation hein, ou d'école d'été, je ne sais pas comment il faut appeler ça, dans des pays en voie de développement, je pourrais même dire dans des pays carrément pauvres, voire très pauvres. Quelle est votre démarche ?
Tout ça tient au fait que lorsque j'étais jeune, j'ai été en Allemagne, mais j'ai été aussi au Pérou pendant 2 ans. Donc c'était dans le cadre du service civil, qui remplaçait à l'époque le service militaire. Et donc j'ai été enseignant pendant 2 ans à Lima, dans une université. Et j'ai vu que le système universitaire avait beaucoup de difficultés. Et ceci s'est encore aggravé par le fait qu'au Pérou, il y a eu une guerre civile avec le Sentier Lumineux. Dans les années 80, moi j'étais de 75 à 77, à partir des années 80 jusqu'au début des années 2000, il y a eu énormément de morts au Pérou, la guerre civile. Et donc en 2004, un collègue qui avait été coopérant comme moi au Pérou m'a contacté pour me demander si je ne voulais pas participer avec lui à la création d'une association pour aider les universités péruviennes à se rétablir. Donc on est parti au Pérou et on a fait le tour des 3 grosses universités de Lima, l'université San Marcos, la UNI, puis l'université catholique. Et là on a vu que c'était catastrophique parce que le matériel avait disparu et les étudiants ne disposaient que de matériel des années 1920. C'est-à-dire c'était 50 ans avant notre séjour au Pérou en 75. Donc c'était vraiment lamentable.
Une régression terrible.
Et donc on a proposé d'organiser une conférence avec cours et travaux pratiques pour les étudiants l'année suivante. Et donc ça a été la première conférence Spectra qui a été organisée à Lima. Et ça a été un gros succès et ça a permis d'enclencher un certain nombre d'actions, notamment mon collègue de Paris a récupéré un laser de puissance qu'il a envoyé. Moi-même, j'ai récupéré un microscope électronique ici au CEA à Grenoble que l'on a expédié à Lima. Et ensuite, on a suivi la mise en œuvre de ces appareils, la formation de certains étudiants, etc. Des étudiants sont venus faire des thèses ici, à Grenoble ou à Paris. On les a suivis pour favoriser leur retour dans le pays. En 2009, les Péruviens nous ont demandé à nouveau d'organiser le même type d'événement, ce que l'on a fait. Et à cette occasion, l'ambassade de France à Lima nous a demandé si on ne pourrait pas étendre nos activités à l'ensemble des pays andins, c'est-à-dire non seulement le Pérou, mais la Bolivie, la Colombie, l'Équateur, le Venezuela. Alors, parmi les personnes présentes, il y avait justement Alain Schul, qui avait été coopérant aussi au Pérou, et on a décidé de créer une école sur les nanosciences. Alors l'idée, c'était que en nanosciences, on peut essayer de constituer des équipes en prenant 2-3 chercheurs d'une université en chimie, 3 autres en physique d'une autre université, et arriver à créer une équipe de 10-12 personnes qui va avoir un objectif pour travailler sur la réalisation d'un capteur, un nanotube de carbone ou un nanophile ou des choses comme ça, ou un capteur pour mesurer le pH dans le sol ou l'insuline ou voilà, toutes sortes de choses qui nécessitent d'avoir donc des compétences interdisciplinaires dont on parlait tout à l'heure. L'école néerlandaise devait avoir lieu cette année à Lima. On n'a pas pu la faire en présentiel, mais on vient de la faire la semaine dernière en utilisant Internet. Donc les cours, les conférences ont été faits à distance et les locaux ont organisé les travaux pratiques et organisé le workshop en quelque sorte.
Parce que cette école donc, qui est annuelle,
oui.
Habituellement c'est des chercheurs français qui vont sur place pour donner les cours.
Non seulement, il y a aussi des chercheurs d'Amérique latine qui viennent aussi soit faire les travaux pratiques ou soit faire des cours.
Alors, vous avez un peu dupliqué cette initiative dans d'autres pays, d'autres régions du monde.
Oui, alors on a, en 2019, changé les statuts de l'association, qui était donc l'association Puya de Raimondi, pour en faire la Puya internationale. Alors, pourquoi ? Parce qu'on voulait développer de nouvelles thématiques, d'une part, et aussi faire en sorte que l'école... ce type d'école puisse se développer dans d'autres continents. Donc, pour les thématiques, on a développé une deuxième thématique qui est sur le numérique, hein, depuis les capteurs jusqu'au big data, en passant par l'Internet des objets. Donc là, on interagit davantage avec des laboratoires d'électronique, de télécommunications des différents pays en Amérique latine. On a déjà organisé 3 sessions de cette école où on souhaite aussi développer des travaux pratiques qui sont basés sur l'utilisation de Raspberry ou bien d'Arduino, qui sont des petits ordinateurs qui coûtent très très peu cher. Les Arduino sont des ordinateurs qui coûtent 2 à 3 euros et qui permettent de faire de la gestion de capteurs, de la collection de données, de l'envoi de données par Wi-Fi, par radiofréquence, qui permettent de faire énormément de choses, moyennant des coûts très réduits, et surtout l'aide sur Internet, parce que la communauté de jeunes ou de gens qui utilisent Arduino est très très étendue. Il y a des millions de gens qui se posent des questions, font des réalisations, mettent leurs résultats sur Internet, si bien que un étudiant qui rentre dans ce monde, s'il a des problèmes, peut trouver en général une solution.
Alors pourquoi dans ces conditions, enfin sur ce sujet-là, les pays avec qui vous interagissez ont besoin d'aide de votre part?
Alors, mon idée, c'est que c'est très difficile de développer une industrie, par exemple, de microélectronique dans des pays comme l'Argentine ou le Brésil, pour diverses raisons. Par exemple, si vous voulez faire un atelier de fabrication de MEMS, qui sont des petits composants que l'on trouve pour déclencher les airbags dans la voiture, des composants qui font que lorsque vous faites une rotation de votre téléphone, l'image tourne de 90 degrés aussi. Donc ce sont des petits capteurs qui mesurent qu'il y a une rotation ou une décélération dans le cas de l'airbag. Et ces capteurs, on en trouve de plus en plus dans les voitures, les téléphones, dans la vie courante. Et beaucoup de pays souhaitent développer, auraient souhaité développer ces composants eux-mêmes. Mais par manque de réalisme, ils ne se rendent pas compte que il faut des dizaines de millions d'euros pour monter un atelier de fabrication de MEMS, d'une part, mais que d'autre part, il faut des équipes extrêmement compétentes, des équipes technologues. Et à plusieurs reprises, on a été consulté par des laboratoires qui voulaient développer ça chez eux. Et lorsque l'on fait une étude de ce qu'il est nécessaire de développer pour pouvoir y arriver, ils se rendent compte que c'est hors de portée de leur capacité. Et en plus, quelquefois, se greffent les situations de corruption, etc., qui font que monter un laboratoire de fabrication, un atelier de fabrication de tels composants est extrêmement difficile dans toute la zone d'Amérique latine. Alors, mon idée, c'était que il y a malgré tout quelque chose où ils peuvent être très très bons à l'avenir, c'est dans le développement du soft. C'est-à-dire qu'il y a le hard, c'est-à-dire les matériaux pour faire des microprocesseurs, pour faire des mémoires, mais il y a aussi tout ce qui est soft pour comprendre comment le faire, comment le dessiner, ça s'appelle le design, comment y mettre de la sécurité pour que les hackers ne passent pas par ces objets-là pour voler des données, etc., etc. Et donc, il y a toute une partie de conception qui peut se faire dans des bureaux, en quelque sorte, et à mon avis, avec des moyens bien plus réduits que la fabrication des composants.
L'investissement essentiel, c'est la connaissance.
C'est la connaissance. Donc l'idée, c'est de développer la connaissance chez les étudiants et leur dire aussi que s'ils ont cette connaissance, ils peuvent partir à l'étranger, aux États-Unis, en Asie, en Europe, pour se former davantage, mais ils pourront revenir dans leur pays. Parce que avec des technologies classiques, la difficulté que l'on a, c'est que quand des étudiants viennent faire une thèse de doctorat en Europe, en général, ils ne trouvent pas de poste chez eux, et donc ils restent en Europe. Et donc là, c'est un peu, disons, un vol de l'élite. Et on a, par exemple, une diaspora péruvienne en Europe qui est extrêmement importante. On a organisé une école à Madagascar sur les nanosciences appliquées à l'énergie. Donc, en particulier, c'est un éveil pour inciter les universités à se regrouper, à travailler ensemble, promouvoir les sciences et techniques au travers des nanosciences et nanotechnologies.
Et donc vous adressiez aux universités,
aux étudiants, aux universités. Et donc on a fait une école d'une dizaine de jours sur les batteries et les cellules solaires. Un point que je voulais aussi mentionner, c'est que au début, l'association Pouya de Raimondi était une association avec des bénévoles de toute la France. Depuis l'an dernier, on a surtout fait interagir des Grenoblois et des Parisiens, mais surtout des Grenoblois, et surtout on s'est rapproché de l'université de Grenoble-Alpes. Parce que l'on voit que sur le campus universitaire, il y a aussi des équipes qui interagissent avec le Pérou pour l'étude des glaciers ou des tremblements de terre, ou avec des équipes du Costa Rica sur les carapaces de crevettes pour extraire des biomatériaux, etc. etc. Et donc, on essaie d'élargir notre cercle de bénévoles, et en particulier avec les gens du campus.
Chaque week-end, sur RKS, rendez-vous avec le miroir des sciences.
Vous êtes toujours sur le miroir des sciences, RKS, l'esprit grenoblois. On aborde maintenant la dernière partie de cet entretien et dans cette partie, on revient en France, toujours pour parler science, pour parler transmission, pour parler éducation vers les jeunes. François, vous avez des enfants ?
Vous l'avouerai-je ?
Oui. Je crois que la réponse est oui. Alors, oui. Est-ce que vos enfants ont, comment vos enfants ont vécu l'enseignement des sciences au collège, au lycée ?
Oui, il faudrait demander à mon fils de prendre l'antenne pour témoigner, puisqu'il est là avec nous. Mais bon, avec douleur peut-être, avec douleur, parce que ce ne sont pas des scientifiques, les miens. Donc
alors,
j'ai raté.
On a la chance d'avoir en studio justement
Étienne,
qui est le fils de François et qui va, en quelques secondes, nous témoigner de son Étienne, impression sur l'enseignement.
Tu nous fais part de la douleur sur les sciences ?
Moi, les sciences, c'est facile, ça ne se résume à rien, puisque j'ai fait une filière littéraire, donc j'ai arrêté les maths en seconde. Et après, les sciences physiques, on sait tous qu'en première et en terminale en littéraire, il n'y a absolument rien à apprendre, disons-le franchement. Mais par contre, après, en faisant des études, et donc là, un BTS audiovisuel et en faisant beaucoup de physique, j'ai vu que j'avais un véritable manque.
Et t'as regretté très profondément.
Non, pas très profondément, parce que j'étais content de pas faire de maths. Mais j'ai vu que j'avais quand même beaucoup de lacunes dans des bases qui sont quand même utiles, même dans la vie de tous les jours.
Bon, alors Sébastien, on vous a cassé votre effet, là ?
Pas du tout, pas du tout. Merci Étienne pour ce témoignage. On va écouter Robert Baptiste, justement, sur cette question de l'enseignement des sciences en France.
Alors, vous œuvrez aussi, Robert Baptiste, pour la diffusion scientifique localement. Et je me suis laissé dire que vous participiez à des programmes qui visent à donner envie aux jeunes de s'intéresser à la science et à la technologie. Il faut dire que depuis au moins deux décennies maintenant, les filières scientifiques de l'enseignement supérieur connaissent une perte d'attractivité avec des baisses effectives qui ont mené à des fermetures, des restructurations de filières universitaires. Pourquoi, selon vous, en est-on arrivé à cette situation ? Est-ce toujours la tendance aujourd'hui ?
C'est une question à laquelle je ne peux pas directement répondre parce que je suis assez loin du monde estudiantin ou du monde universitaire en ce qui concerne les formations. Et je vois en effet que moins d'étudiants ont envie de faire des sciences. Mais je ne saurais dire si c'est au niveau de l'université ou bien avant qu'il y a un défaut. Pour moi, c'est déjà dès l'école primaire ou les petites classes que l'enseignement scientifique et technique n'est probablement pas suffisant.
Comment on s'y prend aujourd'hui pour attirer les jeunes générations vers la science dans ce contexte ?
Alors, c'est un peu le même problème que tout à l'heure avec les Arduino, c'est-à-dire comment les amuser à faire de la science avec des outils modernes. Lorsque vous avez la possibilité d'utiliser un Arduino, que vous couplez à un ordinateur, et que grâce à cela, vous allez pouvoir faire tourner un moteur pas à pas, vous voyez que si vous le faites avec des jeunes, des étudiants, ils découvrent qu'ils sont capables de faire ça eux-mêmes. Ils prennent un lecteur de CD, ils démontent, ils récupèrent un moteur pas à pas, il le branche comme il faut avec un Arduino, il lance un programme et ils font tourner le moteur de 3 pas en avant, 3 pas en arrière, etc. Et vous ne pouvez pas imaginer le plaisir qu'ils ont à découvrir qu'ils sont capables de le faire. Et donc, c'est par la main, c'est en mettant les mains et pas simplement la tête, qu'ils font quelque chose. Il me semble que dans ma génération, les jeunes démontaient des mobilettes. Vous savez comment un moteur de MOPS, comme on appelait ça à l'époque, comment un moteur fonctionnait. Et ça passait aussi par la main, le montage et démontage. Et il me semble que aujourd'hui, sépare par l'informatique, il faut passer par le numérique. Et donc, dans tout OTP, on a toujours une part d'informatique, parce que ils ont l'impression qu'ils dominent les choses lorsqu'ils peuvent le répéter et que ça fonctionne un certain temps, et qu'ils peuvent voir à l'écran. Et donc, pour moi, dans l'enseignement technique, la part de l'informatique est extrêmement importante. Et je pense que utiliser un Arduino, ça peut se faire à partir de la quatrième. N'importe quel gamin de 12-13 ans, avec un tuteur, peut comprendre comment le faire marcher, comment le programmer, et comment faire en sorte que une lumière LED s'éclaire lorsque quelqu'un passe à côté de cette armoire, etc. etc. Oui, c'est toutes ces applications-là, et ça donne, à mon avis, une bonne connaissance de la réalité et de la difficulté de la réalité. C'est-à-dire que ça ne va pas marcher du premier coup, et il va falloir se battre pour arriver à faire en sorte que le moteur tourne, ou que la LED se déclenche quand on passe à côté, etc. Mais lorsqu'ils y arrivent, à mon avis, ils ont une grande joie. Et c'est ça qu'il faut favoriser, parce que ça coûte pas cher, et c'est assimilable par beaucoup d'enfants en bas âge, disons. Ce que je vois, c'est que quand on fait des exercices avec des jeunes sur les cellules solaires ou bien les moteurs pas à pas, etc., avec des lycéens qui sont en première ou terminale, et qui soudent, même avec un fer à souder, deux fils ensemble, je vois qu'ils sont contents. Et que, en général, ils ont appris quelque chose. Et donc, c'est un retour vers du concret, vers des choses que l'on sent avec les doigts. Et je pense que, pour l'instant, il y a trop avec la tête et pas assez avec les mains. Et qu'il est bon de pouvoir passer de l'un à l'autre.
Oui, et puis les jeunes qui utilisent beaucoup les technologies, effectivement, on a l'impression, peut-être ils ont l'impression que tout se joue d'un point de vue numérique abstrait, soft, avec peut-être des boîtes noires, mais dont on ne sait pas comment elles fonctionnent. Vous, votre message, c'est qu'il faut ouvrir les boîtes noires.
Il faut ouvrir les boîtes noires. Il faut rentrer dedans. Oui, tout à fait.
Donc ma question, j'allais vous demander ce que vous diriez aux jeunes pour leur donner envie de faire des sciences, les jeunes qui, l'année prochaine ou dans les années suivantes, vont s'orienter vers la science. Mais si je comprends bien, il n'y a rien à leur dire, il faut leur faire faire pour les convaincre.
Il faut leur faire faire des choses. Il faut qu'ils se heurtent aux réalités de l'instrumentation. C'est ingrat, c'est pas facile, ça marche pas du premier coup. Mais on en tire de très grandes joies qui ont une répercussion sur sa capacité à aborder des problèmes plus compliqués ou plus fondamentaux. Et ce passage du pratique au fondamental me paraît être très important pour la formation des jeunes.
Alors pour terminer, Robert Baptiste, je voulais aborder à travers une question un thème un peu plus large qui a trait au lien entre la science et la société. Nous avons connu, nous connaissons encore, on traverse encore une période de perturbation très forte de notre société, de nos repères. Et la science a été particulièrement impactée, bousculée dans cette crise. Beaucoup de personnes s'interrogent sur la place que la science doit occuper. Que pensez-vous de cette situation? Quelle est votre vision de l'époque, de la chose?
Je suis dans une période où, pour des raisons personnelles, il y a beaucoup de doutes et beaucoup d'interrogations. Et donc, je ne suis pas sûr que je puisse apporter une contribution positive. Et c'est vrai que les scientifiques que je vois à la télévision régulièrement me paraissent ne pas pratiquer ce que devrait être la science, c'est-à-dire le doute, la discussion, et que la présentation qui en est faite repose essentiellement sur des controverses et que la science n'est pas à sa place, mais que peut-être les scientifiques que l'on voit et que l'on entend jouent un rôle qui n'est pas le très bon rôle.
Mais parce qu'ils sont sollicités dans un cadre politique très tendu et que le politique, il n'a pas le droit au doute, il doit décider.
Oui, mais justement, pour l'instant, il y a beaucoup de points où on ne sait pas trop et donc il faut avancer avec prudence et souffrir que une vérité d'aujourd'hui ne soit pas la vérité de demain et c'est comme ça que la science avance. Hein. Mais pour l'instant, on ne le permet pas. Et donc... ça me met mal à l'aise de voir toutes les affirmations ou bien tous les gens qui s'expriment sur les vaccins, les virus, qui confondent les virus comme Covid avec le virus qu'il y a dans un ordinateur. Enfin, bon, il y a une régression très forte de la connaissance.
Est-ce que c'est une régression de la connaissance ou est-ce que c'est un moment où les circonstances font qu'on voit avec plus d'évidence qu'elle n'est pas très répandue, que les gens leur priorité n'est pas forcément de faire avec la connaissance, de réfléchir avec la connaissance.
Il me semble que beaucoup de gens de bon sens ne pensent pas ça et voudraient qu'il y ait aussi plus de bon sens dans plein de décisions. Et le bon sens a un peu disparu. C'est pour ça que, avec les lycéens ou les étudiants, je reviens un peu aux Arduino et à l'instrumentation, parce que là, il faut du bon sens. Il faut s'écarter un tout petit peu des théories et de la communication sur la théorie. Et quand on a les mains dans le cambouis et qu'on est partie prenante, on ne juge pas les choses de la même manière que quand on est à l'extérieur et qu'on passe son temps à juger les scientifiques, les politiques. Il faut être impliqué, être dedans pour pouvoir juger des décisions qui sont prises et des affirmations qui sont faites. Et tout est tellement compliqué que, même tout à l'heure par rapport à l'enseignement, je ne peux pas répondre comme ça, je ne suis pas prof. Je ne suis pas ni professeur de lycée, ni professeur d'université, donc je ne sais pas exactement pourquoi le niveau des mathématiques a baissé chez les enfants
en quatrième.
Je ne sais pas pour quelle raison. Je ne suis pas enseignant du primaire et je ne vois pas pourquoi si les programmes ont évolué ou si les instituteurs n'ont pas de formation mathématique, mais plutôt que littéraire, ou je ne sais pas, je ne peux pas en parler. C'est un flou assez grand.
Voilà. Robert Baptiste, merci.
Merci Sébastien Berger pour votre interview.
Alors Sébastien, vous invitez Robert Baptiste et l'interview se termine par je ne sais pas.
Voilà,
qu'est-ce que c'est que ça au bout de 40 minutes.
Une vision un peu, peut-être, on sent un peu d'amertume chez Robert Baptiste sur son regard sur l'époque actuelle, sur la société. Et en même temps, il n'est pas passif. Il agit pour l'éducation, pour construire quelque chose de mieux à son sens, de meilleur pour demain, et c'est ça qui m'a plu chez lui.
Alors rappelez-nous le nom de son association peut-être.
Alors l'association qui organise ses formations en Amérique latine, à Madagascar et aussi au Vietnam, on n'en a pas parlé, s'appelle la Pouya Internationale, P-U-Y-A Internationale.
Ben bravo, bravo à lui. Et puis bravo à vous aussi pour avoir détecté un autre sujet. Et je vais conseiller à nos auditeurs de se reporter au blog de l'émission pour avoir le replay, puisque le 11 décembre dernier, c'était les 50 ans de la remise du prix Nobel à Louis Nel, un personnage qui a beaucoup compté pour la structuration de la recherche scientifique ici dans le sillon grenoblois. Et vous nous aviez proposé une émission que vous avez réalisée d'ailleurs et qui documente complètement le travail de Louis Nel grâce à deux chercheurs que vous avez rencontrés.
Oui, ils sont une équipe, ils sont un peu plus, ils sont quatre. Là, j'en ai rencontré deux. Et effectivement, c'est important de marquer le coup aussi, de revenir un peu sur ce type de personnages passés qui ont, grâce à qui on comprend où on en est aujourd'hui, avec quoi on travaille.
Donc les auditeurs peuvent, en tapant simplement sur leur navigateur Le Miroir des Sciences, nous trouver très facilement et ils vont trouver cette émission qui était passée le 5 décembre.
Tout début décembre, j'ai plus la date exacte, ça devait être un samedi à 10h.
Voilà, Louis Nel, les 50 ans du prix Nobel.
Chaque week-end sur RKS, rendez-vous avec Le Miroir des Sciences.
À la pêche, au bonheur, prends ta pelle et ton seau. Ne crains pas, petite fleur, de te prendre un râteau. À la pêche, au bonheur, suis le cours du ruisseau. De tes mains, petite sœur, cueille les fruits les plus hauts. Ma petite, ma sœur, ma belle enfant gâtée, t'es là, tout emmêlée au jupon de ta mère. À 20 ans, l'âge tendre, tes ailes sont collées. Ma petite, ma frangine, ma toute fracassée, tu voudrais prendre l'air, mais tu restes prostrée. Quel est le con qu'a dit que 20 ans, c'est le pied.
À la pêche, au bonheur, prends ta pelle et ton seau. Ne crains pas, petite fleur, de te prendre un râteau. À la pêche, au bonheur, suis le cours du ruisseau. De tes mains, petite sœur,
petite, ma frangine, ma princesse fêlée, t'es là, comme une poupée qui dépérit dans ses dentelles, la trouille en bandoulière, tout au bord de sauter. Au chemin qui t'attire, tu hésites et tu trembles, au nid qui te retient, te monte la nausée, le temps est à se pendre, et t'en crèves d'attendre.
À la pêche, au bonheur, prends ta pelle et ton seau. Ne crains pas, petite fleur, de te prendre un râteau. À la pêche, au bonheur, suis le cours du ruisseau. De tes mains, petite sœur, cueille les fruits les plus hauts.
C'était Chloé Lacan à La Pêche au Bonheur, une artiste comme on n'en entend pas assez, avec une vraie intelligence des textes, une intelligence musicale également, et puis une formidable instrumentiste. Elle joue de l'accordéon, vous avez dû l'entendre.
Votre choix pour illustrer cette émission.
Voilà, c'est ça, et puis ça me permet d'avoir une petite pensée pour les artistes et les techniciens du spectacle en général qui vivent une période très dure et qui ont besoin de soutien. Alors François, je crois que vous nous avez apporté quelques idées cadeaux pour cette fin d'année.
On est dans l'ambiance, mais des idées cadeaux quand même en relation avec la connaissance scientifique, la médiation, mais pas que. Parce que, donc, vous l'avez noté comme moi, le président est malade ou déclaré officiellement malade et il s'est retiré à Versailles dans donc une résidence présidentielle particulière et je voudrais vous renvoyer à un ouvrage qui est sorti en 2017 qui raconte l'histoire de cette résidence présidentielle qui est au fond du parc de Versailles, la garçonnière de la République. La journaliste Émilie Lanaise lève le voile sur les secrets de la plus mystérieuse résidence de la République, nichée donc dans le château de Versailles. C'est un petit palais qui est depuis plus de 50 ans l'épicentre de la vie politique française secrète. En tout cas, le back-office. Voilà. Après, qu'est-ce que j'ai d'autre ? Bah, je peux vous signaler, par exemple, la sortie d'un ouvrage extrêmement important qui peut-être nous donnera des idées d'émissions très bientôt. C'est l'Atlas de la grotte Chauvet par l'archéologue Jean-Michel Genest qui a dirigé entre 2001 et 2018 les recherches sur la grotte préhistorique découverte en 1994. Et puis, il était avec le géomorphologue Jean-Jacques Delannoy. Alors, qu'est-ce qu'en dit le monde de cet ouvrage « Atlas de la grotte Chauvet » ? D'un gros livre, on dit souvent que c'est un pavé. Dans le cas de l'Atlas de la grotte Chauvet, ouvrage monumental, l'image du pavé ne suffit pas, c'est plutôt celle d'un parpaing qui s'impose. Quelques chiffres pour commencer, des dimensions hors normes, 48 par 34 cm, pas loin de 6 kilos de papier, soit l'équivalent d'un pack de lait, une centaine de 4, d'un pack de lait de 6, hein. Oui. Une centaine de cartes, quelques 600 illustrations, une quarantaine d'auteurs et un tarif à l'avenant 180 euros.
Pour un
seulement
parpaing, ça
135
fait cher.
Si on acquiert le parpaing d'ici la fin de l'année.
Oui. D'accord, alors parpaing, c'est un peu anachronique pour la grotte Chauvet quand même.
Oui, vous avez raison de le noter. Enfin bon, peut-être qu'on aura l'occasion de l'explorer avec ces auteurs si on arrive à les inviter dans l'émission. Ce serait une bonne idée, non ?
Tout à fait.
Alors, des idées peut-être un peu plus proche de l'esprit de Noël. Il y a un album que je vous ai apporté qui s'appelle Alfred Wallace et la théorie de l'évolution. Alfred Wallace est donc présenté comme le rival de Darwin. C'est un bel album illustré par Henry Tennant. Alors vous pouvez chercher le nom de cet auteur et vous trouverez de nombreuses images. L'ambiance de ces images, c'est celle des affiches de publicité pour les voyagistes des années 30. Vous savez, ces affiches qui vantent Nice ou Chamonix. Tout au bout des voies de chemin de fer. Malheureusement, sur l'album, on est un peu déçu par les textes enfantins qui ne décollent pas du sol. On y présente Wallace comme le rival de Darwin, c'est d'ailleurs le sous-titre de l'album. Pourtant, à la fin du récit, on comprend que les deux hommes étaient amis, même si Darwin évoque une sorte de rivalité dans un courrier. Ce n'est pas le sentiment dominant dans leur relation. Le récit anecdotique masque un peu la culture scientifique dans cet ouvrage, qui a quand même le mérite de nous faire découvrir Alfred Wallace. Donc ça s'appelle Alfred Wallace et la théorie de l'évolution chez Delachaux et Nestlé. Né en 1823 et mort en 1913 à 86 ans, Alfred Wallace a émis une théorie sur l'évolution en parallèle donc des travaux de Charles Darwin. Et les deux hommes se sont connus et très bien entendus. On dit que Darwin se serait quand même pressé de publier son ouvrage « L'origine des espèces », sachant ce que préparait Wallace. Et puis, petite caractéristique supplémentaire sur la personnalité d'Alfred Wallace, caractéristique intéressante, il s'est beaucoup préoccupé de l'injustice qu'il ressentait vis-à-vis du système économique et social anglais de la fin du 19e siècle. Et il était aussi également préoccupé par l'impact des activités humaines sur l'environnement, donc à la fin du 19e. Donc il était autodidacte et il avait aussi un côté
un peu visionnaire,
cet Alfred Wallace. Dernière idée, si vous me le permettez.
Je vous en prie.
Et là aussi, je vous ai amené l'ouvrage, c'est magnifique. Le Flocon de Bertrand Santini et Laurent Gapaillard aux éditions Gallimard Jeunesse. Alors ces deux-là, paraît-il, s'entendent tous les ans pour faire un ouvrage magnifique. Et là, c'est très réussi. Lors d'une fête somptueuse au Palais du Roi, un jeune homme se présente et offre au souverain un flocon de neige. Observé grâce à la lunette astronomique, la petite étoile glacée semble contenir tout l'univers. Je vous laisse découvrir. C'est donc le flocon au Gallimard Jeunesse. Oui, alors, comme je le disais, j'ai un petit peu changé le... l'ambiance musicale de l'émission. Merci, Le Miroir des Sciences, une émission de François Legrand et Sébastien Berger. Tout au long des deux semaines de fêtes qui commencent, RKS accroche les plus belles boules de Noël dans son univers sonore. Parmi ces boules, je veux attirer votre attention sur les pépites que nous avons concoctées avec Hélène Michel et Sandrine Beau. Elles nous livrent au fil des jours des petites lettres d'amour aux multiples territoires du sillon alpin. C'est à retrouver sur l'antenne de RKS à partir de lundi et pendant deux semaines, et puis aussi sur le site fabularium.fr. Le Miroir des Sciences est en réécoute sur les principaux flux de podcasts et sur le site de la radio RKS. Vous trouverez le blog de l'émission simplement en tapant Le Miroir des Sciences sur votre navigateur préféré. Sébastien, merci pour cette première partie de saison. C'est un plaisir de faire cette émission avec vous.
Et pour moi aussi, plaisir partagé.
Allez, portez-vous bien, joyeux Noël et à bientôt sur RKS. Merry Christmas.
L'info de proximité et le meilleur des tubes à Grenoble, c'est RKS.
Flash Info.
Bonjour, Michel Zecler, le producteur de musique noire passé à tabac par des policiers fin novembre à Paris, va voir son préjudice physique et psychologique fortement réévalué vers plus de 180 jours d'incapacité temporaire de travail. En parallèle, trois policiers ont été mis en examen pour violence volontaire par personne dépositaire de l'autorité publique, avec plusieurs circonstances aggravantes, dont celle de racisme et pour